parle d'Haïti et des Amériques. Anne Verdaguer, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Cet appel à la mobilisation en Haïti après la mort d'un étudiant atteint d'un projectile venant d'un agent de la sécurité présidentielle. Selon les témoins, les professeurs de l'Université d'État d'Haïti rejettent la responsabilité sur le gouvernement. On en parle dans un instant. Donald Trump toujours à l'hôpital. Va-t-il sortir aujourd'hui? Cela n'empêche en tout cas pas la bataille électorale de se poursuivre à moins d'un mois de l'élection présidentielle. Au Texas, les inscriptions sur les listes électorales prennent fin ce lundi soir. Thomas Harms est allé à la rencontre de la communauté afro-américaine, très courtisée par les deux camps. Et on commence par la revue de presse des Amériques. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
On se rend donc d'abord en Haïti avec les réactions à la mort d'un étudiant.
Oui, Grégoire Saint-Hilaire, étudiant de l'ENS, l'Université d'État d'Haïti. Ce vendredi, il manifestait avec un groupe d'étudiants pour réclamer des lettres de nomination dans le système éducatif, explique Haïti Press Network. La suite, c'est un étudiant interrogé par le Nouvelliste qui la raconte. Soudain arrivent deux véhicules transportant des agents de l'unité de sécurité générale du Palais National qui ont lancé du gaz lacrymogène et tiré dans notre direction pour éteindre le mouvement. C'est à ce moment-là que l'étudiant a été atteint d'un projectile au dos. Alter Press reproduit une lettre ouverte de professeur de l'université condamnant avec véhémence l'attaque, affirmant que l'élève a été lâchement assassiné et que rien de tel ne s'est produit en plus de 30 ans de mouvements revendicatifs et sociaux dans le milieu universitaire haïtien. La responsabilité de cet acte odieux incombe au gouvernement de la République, martèle le texte. De leur côté, dans le Nouvelliste, des responsables de l'université rappellent que plus d'une fois, les agents de cette unité, en charge de la sécurité, rappelons-le, du président de la République, ont exercé de la brutalité à l'endroit des personnes fréquentant l'université. Et la direction de l'ENS d'appeler à la mobilisation de toute la communauté universitaire et de la nation.
Direction les États-Unis à présent, où la presse se pose beaucoup de questions sur l'état de santé de Donald Trump. Le président américain, vous le savez, a été testé positif au coronavirus. Il a passé sa troisième nuit à l'hôpital et peu avant de sortir, saluer ses partisans, il a enregistré cette vidéo. It's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID. C'est une expérience très intéressante. J'ai beaucoup appris sur le Covid, dit le président américain. Et dans une série de tweets, on voit que Donald Trump semble en forme, en effet, puisqu'il a envoyé pas moins de 19 tweets depuis ce matin pour inciter ses électeurs à voter pour lui. Alors, on l'a entendu, Christophe, le président dit avoir beaucoup appris sur le Covid. La presse, de son côté, estime au contraire avoir du mal à avoir des informations fiables sur son état de santé.
Oui, en une, le Washington Post parle de confusion. Le New York Times de faits troublants, le Boston Globe se dit préoccupé. Selon le New York Times, le traitement appliqué au président suggère, contrairement à ce qu'affirme la Maison Blanche, une forme sévère du virus. Mais selon certains experts, peut-être le président décide-t-il lui-même de son traitement. Peut-être demande-t-il un traitement très fort, en dépit de risques qu'il ne comprend peut-être pas parfaitement. Du coup, son médecin, le docteur Shin P. Conley, fait l'objet de toutes les attentions pour avoir, selon le Washington Post, peint un tableau idyllique de la santé du président. Le fait est, rappelle le New York Times, que le praticien a reconnu avoir trompé le public sur le traitement de Donald Trump pour refléter l'attitude positive de la Maison-Blanche. Et, révèle le Wall Street Journal, cela avait commencé très tôt, puisque selon le quotidien, jeudi dernier, le président n'a pas donné le résultat de son premier test qui était positif lorsqu'il est intervenu juste après sur la chaîne Fox News.
Car ce que veut le président Trump, Christophe, c'est projeter une impression de force, estime le Boston Globe.
Oui, qu'on fait ce dimanche, cette sortie surprise est, semble-t-il, risquée de son lit d'hôpital pour saluer ses supporters et ainsi, explique le Globe, dissiper toute impression de fait. Maintenant, souligne le journal, certains de ses proches collaborateurs craignent qu'il ne fasse pression sur le docteur Conley pour qu'il le laisse sortir de l'hôpital en lui disant qu'il se sent mieux, alors que ce n'est pas le cas. Il faut dire, juge le Washington Post, que la maladie de Trump stoppe sa campagne juste au moment où elle a besoin d'un bon stimulant. Après une semaine catastrophique entre révélation du New York Times sur le non-paiement de ses taxes et hospitalisation. Une hospitalisation que du coup les conseillers et les alliés de Trump essaient d'utiliser pour galvaniser sa base. Confère cet article du New York Post, proche des Républicains, sa bataille contre le coronavirus prouve la bravoure du président. Le New York Post très dur pour Joe Biden, l'adversaire de Donald Trump, qui, depuis le début de la pandémie, multiplie les précautions. Si c'était votre grand-père, vous admireriez son attitude. Mais un président ne peut pas être paralysé par la peur. Et c'est la même chose pour le pays, explique le Post. Le New York Times, lui, se félicite des mesures de précaution prises par l'ancien vice-président qui lui permettent, à lui, de continuer sa campagne. Mais le journal regrette que son protocole de santé personnelle reste en grande partie caché. Une transparence totale crée de la confiance dans la communauté et permet d'apaiser les peurs et les inquiétudes, affirme dans le journal le docteur Kelly Mitchelson de l'école de médecine de l'université Feinberg.
On termine, Christophe, avec le Costa Rica où le président a retiré sa proposition de dialogue avec le FMI.
Oui, une semaine après le début de manifestations parfois violentes dans tout le pays, note La Repubblica. La Nation rappelle que l'objectif de ces négociations, c'était donner un peu d'oxygène aux finances publiques à cause de la recrudescence de la crise fiscale provoquée par la pandémie. Mais pour accéder à ce financement, le pays devait subir un fort ajustement économique. Ce qui était proposé, c'était imposer les transactions bancaires, imposer la propriété, les salariés, les revenus des entreprises, entre autres. D'où ces manifestations qui rapportent La Repubblica, bloquées hier encore à 14h, 36 points du pays. Le président Carlos Alvarado retire donc cette proposition et dans la foulée ouvre un processus de dialogue avec les différents secteurs du pays. Un processus qu'il dirigera, même si, note La Repubblica, on ne sait pas encore qui sera invité. En tout cas, rapporte La Nation, la quasi-totalité des députés, les entreprises et les églises catholiques et évangéliques applaudissent la décision du président. Mais, prévient le journal, les dirigeants et les syndicalistes qui sont derrière les manifestations affirment qu'elles continueront ce lundi. Dans l'article, un ancien député, Thelimo Guido, explique cette décision en affirmant « Chaque fois qu'ils négocient, qu'ils obtiennent la levée d'un mouvement, c'est pour le briser et ensuite s'en moquer. »
Merci beaucoup Christophe Paget pour cette revue de presse des Amériques. Et la bataille électorale aux États-Unis, eh bien, on continue d'en parler malgré l'arrêt des meetings de Donald Trump. Un vote qui se joue le jour de l'élection, bien sûr, mais aussi en amont lors de l'inscription sur les listes électorales. Et au Texas, elles prennent fin ce lundi soir à Houston, devenue première ville noire des États-Unis devant New York. La communauté afro-américaine est particulièrement courtisée. Un dossier signé notre correspondant sur place, Thomas Arms.
Assise à une table du Midtown Bar, Kanesha Coleman en est à sa 13e inscription sur les listes électorales cet après-midi lors d'un concert de jazz.
Nous faisons une campagne d'inscription auprès des électeurs. Nous avons organisé un événement amusant et créatif pour les attirer et les sensibiliser à l'importance du vote.
Un homme s'assied à côté d'elle, il prend un formulaire.
C'est la première fois de toute ma vie. Je suis citoyen américain depuis 2003. Je suis arrivé dans ce pays en 1979. Je n'ai jamais pensé que mon vote pouvait compter, et 99% des candidats que j'ai connus dans ma vie étaient toujours ce qu'on appelle le moindre mal. Mais le mal n'a jamais été aussi grave qu'aujourd'hui. Biden n'est pas une mauvaise personne, c'est peut-être un idiot, mais nous en avons déjà eu des comme ça, je peux vivre avec. Mais là, avec Trump, c'est le mal que nous combattons, c'est ce à quoi nous faisons face. C'est pour ça que j'ai pris la décision de m'inscrire sur les listes électorales.
De nombreuses organisations essayent de pousser les gens à s'inscrire, mais aussi à aller voter. Kendall Burnett est membre de la Ligue urbaine des jeunes professionnels de Houston.
Les gens se rassemblent pour aider à mobiliser les électeurs pour qu'ils aillent voter. Ils viennent pour inscrire leurs proches. Mais ce n'est que la première partie, car vous devez vous inscrire et ensuite vous devez aller voter. Les opérations de vote commencent le 13 octobre jusqu'à la fin du vote anticipé, une semaine avant le jour de l'élection. Ce n'est donc que la moitié de la bataille. Il y a encore une bataille à mener pour que les gens se rendent aux urnes. Nous ne vous disons pas pour qui voter, mais nous vous demandons d'aller voter.
Après le meurtre de George Floyd, tué à Minneapolis en mai dernier, les manifestations de protestation cet été ont galvanisé la communauté afro-américaine. Oscar Hines dirige une station de radio communautaire. Il reçoit chaque jour des acteurs de la communauté afro-américaine et il constate ce changement.
La disparition de George Floyd a créé une explosion d'énergie. Il y avait jusque-là un manque d'intérêt, franchement, parmi beaucoup d'afro-américains. Ils ne s'impliquaient pas dans le processus politique. Mais avec cet événement aussi médiatisé et aussi horrible que la mort de George Floyd, on a désormais un groupe qui a un réel pouvoir et qui veut vraiment changer les choses. George Floyd a été tué au mois de mai et il y a encore beaucoup d'énergie pour rassembler des personnes qui représenteront de manière plus équitable les gens de couleur de ce pays. La dernière fois que nous avons observé cela, c'était avec l'administration Obama quand il est arrivé au pouvoir. Il y avait alors beaucoup d'espoir. Il y avait beaucoup de désir que les choses changent. Nous n'avions pas vu de grande mobilisation afro-américaine pour voter lors des élections présidentielles précédentes. Et certains diront que c'est en partie partie à cause de ça que le président Trump est arrivé au pouvoir. Et très franchement, le Parti démocrate doit faire mieux. Pour l'instant, ces cadres pensent qu'une personne de couleur ira automatiquement voter pour eux, simplement en raison de la couleur de sa peau. Il faut qu'il y ait un changement radical. Est-ce que je crois que la participation sera meilleure que par le passé? Oui, absolument. J'en ai eu la preuve auprès des jeunes avec qui je travaille à la station de radio. Ils s'inscrivent tous pour voter.
Depuis le mois de mai, le mouvement Black Lives Matter a vu son influence prendre de l'ampleur et à un mois de la présidentielle, ses militants se concentrent aussi sur les inscriptions et le vote. Brandon Mack est un des organisateurs de BLM à Houston.
À Black Lives Matter Houston, nous nous sommes engagés à former les individus, à les aider à se rendre aux urnes et à mobiliser les gens pour qu'ils votent. C'est un des nombreux leviers que nous utilisons pour mobiliser les gens, les rendre même acteurs des changements dans la ville de Houston. Je pense que la population noire va certainement être un élément clé de cette élection, parce que nous avons toujours été très engagés dans les élections depuis les années 60, parce que nous avons dû nous battre pour avoir ne serait-ce que la possibilité de voter. Nous sommes donc une base d'électeurs très dévoués. C'est la raison pour laquelle il est important que les personnes qui se présentent aux élections s'engagent auprès de la communauté noire, parce que nous allons constituer un bloc électoral très puissant.
Les Afro-Américains sont à une écrasante majorité démocrate. En 2016, ils ont voté à 88% pour ce parti, mais ce chiffre a décliné. En 2012, ils étaient en effet 93% à s'être déplacés pour voter pour Barack Obama. Joy Davis fait partie de l'organisation très progressiste Texas Organizing Project.
Je ne sais pas si ce sera historique comme lorsque Barack Obama s'est présenté, mais je l'espère, parce que Kamala Harris va nous représenter, et cela a un poids auprès des communautés. Nous contactons nos amis, nous leur disons: n'oubliez pas, vérifiez ceci, vérifiez votre inscription, assurez-vous que vous êtes toujours inscrit. Nous avons le pouvoir de changer cette société. Nous devons juste convaincre ces électeurs pour qu'ils s'expriment dans les urnes et je crois que ça marche. On le voit avec l'augmentation des inscriptions sur les listes électorales.
Depuis 4 ans, la population du Texas a augmenté de 5%, mais le nombre d'électeurs a lui grimpé de 10%. Alors que la part d'électeurs blancs a elle chuté pour ne constituer désormais que la moitié de l'électorat texan. Sharon Eberry est la présidente du Parti démocrate de Houston. Pour elle aussi, il faut transformer le mouvement civique post-George Floyd en vague électorale.
It's a movement with the millennials and Gen X and everything.
C'est un mouvement composé de trentenaires, de la génération X des années 60. Il y a tout. 50% de ces manifestants ne se sont pas enregistrés sur les listes électorales. Ils n'ont tout simplement jamais eu d'opinion. Ils ne croient pas que leur vote compte et ils ne suivent pas la politique comme je le fais. C'est donc notre travail d'aller à leur rencontre, de former ces électeurs, de leur donner les moyens non seulement d'aller aux urnes, mais aussi de se présenter aux élections et d'élire des gens pour nous représenter tous. Parce que la politique, c'est local. En ce moment, nous avons près de 3 millions d'Afro-Américains et 2 200 000 sont en âge de voter. Il y a environ 8 mois, le Texas a dépassé New York. On a la population afro-américaine la plus nombreuse de tous les États-Unis. Nous sommes donc vraiment les électeurs qui permettront au Texas de devenir démocrate. On le peut.
Et donc, absolument, nous sommes la clé. To turn in Texas blue. And we can.
Entre mars et fin septembre, plus de 400 000 nouveaux électeurs se sont inscrits sur les listes électorales. Il reste maintenant à les motiver pour qu'ils aillent voter. Thomas Arms, Houston, RFI.
Il est 8h23 à Houston. L'actualité des Outre-mer, à présent avec le journal La Première, présenté par Tiziana Maron. Bonjour Tiziana.
Bonjour Anne.
On débute par la Guyane avec cette saisie record de cocaïne au grand port maritime.
Oui, près de 600 kilos saisis jeudi dernier dans un conteneur qui devait embarquer pour l'Europe et l'enquête avance. 4 suspects ont été interpellés jeudi soir. Ils doivent être présentés aujourd'hui devant le juge des libertés et de la détention. Les détails avec Laurent Marot de Guyane La Première.
Jeudi soir, les policiers de l'OFAST, l'Office anti-stupéfiants assisté de la gendarmerie, ont mis donc la main sur plus de 500 kilos de cocaïne dans un conteneur au port de Dégradécane à Rémière-Montjoly. C'est un record en Guyane. 3 véhicules ont été saisis et 4 suspects sont en garde à vue à la gendarmerie de Matoury. Parmi eux, un cadre de la Somarig, société de manutention de conteneurs. Il est aussi représentant FO du personnel des entreprises de manutention au Conseil conseil de développement du port, les enquêteurs agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de Martinique, saisi début septembre dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour trafic de stupéfiants. Fin juillet, le dossier est passé du procureur de Cayenne à la juridiction interrégionale spécialisée de Fort-de-France.
Et après leur garde à vue, les quatre suspects pourraient être incarcérés en Guyane en attendant leur transfert vers la Martinique pour être présentés devant le juge d'instruction. Les habitants de la Nouvelle-Calédonie étaient appelés hier à voter sur l'accession de leur territoire à l'indépendance de la France. Un référendum suivi un peu partout dans le monde par les grandes puissances telles la Chine et les États-Unis, mais aussi par les Calédoniens installés aux Antilles. Le résultat a vu la victoire du non à l'indépendance. Quelques réactions recueillies en Martinique par nos confrères de Martinique la Première.
Ça m'a déçu, parce que ça fait longtemps qu'on attendait ça. Mais voilà, s'ils disent que c'est non, on verra la prochaine résultat. C'est pour l'avenir de tous nos enfants qui sont là-bas au pays. C'est pour eux. Et c'est pour montrer qu'on a voté pendant des années, pour qu'ils s'en sortent. Et ça ne marche jamais.
On ne peut qu'être fier de ce résultat. Ça veut dire que les gens ils prennent conscience qu'on peut être indépendant. On est sur ce chemin-là. Il faut travailler encore, mais c'est prévu qu'on y arrive un jour.
Bah, le troisième référendum, bah, on verra bien le résultat. Et ouais, c'est important.
Et effectivement, un troisième référendum d'autodétermination est prévu en Nouvelle-Calédonie dans les 2 ans. Et avant de vous quitter, cap sur la Guadeloupe, fortement touchée par l'épidémie de dengue, est mort lié à la maladie la semaine dernière. Et au service des urgences, on enregistre le taux de passage le plus important depuis le début de l'épidémie fin 2019. 13 000 personnes ont été touchées par la dengue, avec une accélération tout de même ces derniers jours. Et c'est la fin de cette édition. À demain.
Merci, à demain, Tiziana Maron, merci pour ce journal La Première Outre-mer. Un mot de culture pour finir. C'était avant Rosa Parks. Claudette Colvin, jeune fille noire de 15 ans, refuse de céder sa place dans le bus à une femme blanche. Nous sommes en Alabama. Le 2 mars 1955, l'auteur Tania de Montaigne s'est emparée de cette histoire oubliée et la raconte sur scène au théâtre à Paris dans une mise en scène de Stéphane Fuenquinos. Muriel Malouf.
Vous êtes entrée dans la Cotton Belt et vous voici arrivée en Alabama. Vous êtes donc un nègre de Montgomery, Alabama, qui attend le bus au coin de Hall Street et Jeff Davis Avenue. Les noirs sont au fond et les blancs à l'avant.
Black body swinging.
Tania de Montaigne commence à nous immerger dans l'Amérique de l'époque. Seule sur scène, s'adressant au public armé de son talent de conteuse et secondée par quelques images de l'Alabama et des films de l'époque, elle nous transporte en 1955 au cœur du Montgomery.
Lorsque Claudette sort de sa rêverie, elle s'aperçoit qu'une femme blanche se tient debout face à elle et la fixe sans un mot. Claudette ne bouge pas.
Claudette Colvin a aujourd'hui 80 ans. À l'époque, elle en avait 15, l'âge de la rébellion contre l'injustice. Elle va payer cher son refus de laisser sa place dans le bus à une blanche. Prison, déscolarisation, Tania de Montaigne raconte son histoire, fruit de 2 ans de recherche, simplement sans pathos. C'est beau et fort à la fois.
To reflect the times and the situations in which I find myself. That to me is my duty.
Voilà, Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin, donnée au Théâtre du Rond-Point, entame une longue tournée et sera ce soir à Vannes. Merci d'écouter RFI, c'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. On se retrouve demain, 15h10, heure de Paris, 9h10, heure de Port-au-Prince. Restez avec nous sur la Radio du Monde, tout de suite votre émission sur la francophonie de vive voix avec Pascal Paradou. Très bonne journée à tous.
Rejoignez la communauté de RFI sur les réseaux sociaux. Sur nos pages Facebook, vous pouvez suivre, commenter l'actualité et dialoguer avec vos animateurs préférés. Restez aussi connectés avec nous sur Twitter et découvrez nos dernières images sur le compte Instagram de la Radio Mondiale. au cœur du marché de Bujumbura
ou sur les bords du lac Tanganyika,
RFI à Bujumbura sur 96.1 FM.
Dans le quartier de Gracia
ou tout au long de la Ramblas,
RFI à Barcelone sur 105.3 FM.
Dans les rues de Pétionville
ou dans les allées du marché en fer,
RFI à Port-au-Prince sur 89.3 FM.
Pour connaître nos fréquences dans le monde, connectez-vous sur RFI.fr.